Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Dans cette édition d'Escale, nous recevons Ercilia Vaudo Scarpetta, astrophysicienne et chef de la diversité à l'Agence spatiale européenne, que nous avons rencontrée en marge de la réunion organisée par ONU Femmes et le Bureau des affaires spatiales de l'ONU sur l'initiative L'espace pour les femmes. Initiative qui vise à assurer que les femmes puissent participer et bénéficier des opportunités et contributions liées au secteur de l'espace et des STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Ercilia Vaudo Scarpetta, à qui nous avons tout d'abord demandé pourquoi il est important que les femmes participent au secteur de l'espace.
Alors, c'est surtout pas pour des raisons politically correctes. C'est vraiment l'idée que, comme disait le poète Rilke, le futur est en nous avant qu'il arrive. Et donc, ces sujets, donc les sujets scientifiques, sont des sujets qui regardent à l'avant et qui préparent pour le futur et qui préparent pour le monde de demain, ici sur la Terre et aussi dans l'espace. Déléguer la construction de notre avenir à un groupe qui ne reflète pas la présence féminine, les regards féminins, les compétences féminines. On a 50% de la population sur la Terre qui est quand même composée de femmes. On doit pouvoir participer à la construction de ce futur ensemble et d'une manière égale. On ne peut pas laisser qu'aux hommes l'élaboration de ce qui nous appartiendra et ce qui nous sera.
Vous parlez d'un regard féminin. Est-ce qu'il y a des apports particuliers que les femmes, justement, apportent au secteur de l'espace?
Alors, une chose qu'il faut dire, c'est que le sujet est toujours compliqué parce qu'on risque de rentrer dans des stéréotypes. Donc, les femmes sont plus intéressées aux gens et les hommes sont plus intéressés aux choses. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on voit, par contre, d'une manière objective, c'est que là où il y a une diversité de regards, une diversité de points de vue et donc aussi des tensions, quelque part, on a beaucoup plus d'innovation, on a beaucoup plus d'idées, on a beaucoup plus de créativité. Et c'est cet aspect-là, surtout, qu'on cherche pour introduire un élément de participation élargie dans les STEM. C'est pas seulement les STEM, l'autre sujet c'est aussi le monde digital. Le monde digital aujourd'hui c'est un monde où il y a très peu de présence féminine, c'est presque pire que dans l'autre sujet. Et là aussi on peut pas définir le monde de demain qui va être un monde digital sans la présence des femmes.
Vous avez des statistiques, un ordre d'idée du taux de participation, de représentation des femmes?
Oui, des statistiques de l'OCDE, donc on a une présence qui est à peu près de 1% des femmes dans ces domaines-là, qui est due probablement aussi par le fait que tout ce qui est les jeux vidéo sont des mondes qui intéressent peu aux femmes.
Alors, on est en cours de cette réunion ici à l'ONU, qui réunit donc des experts, des membres de délégation, des fonctionnaires, des membres du secteur privé aussi.
Oui.
Qu'en pensez-vous, votre réaction aux discussions, au travail en cours?
C'est très intéressant parce que ce n'est pas un monde homogène et encore une fois, on voit que c'est la diversité des idées, des expériences qui amène vraiment cette créativité en action. Donc, on a des expériences des pays en voie de développement parce que c'est quand même le sujet, c'est d'arriver à sensibiliser les femmes dans ces pays-là et surtout à pouvoir vivre ce sens de empowerment que les sciences amènent aux filles. Et c'est très intéressant, donc les témoignages, c'est beaucoup des actions sur le terrain. Par exemple, il y a The Traveling Telescope, c'est une action en Afrique où effectivement on va dans les différents villages pour faire découvrir avec une infrastructure qui est montée sur le lieu l'étonnement de l'univers, de ce que ça représente et parler donc aussi des métiers de l'univers. On a des activités liées au climat, on a des activités liées à la construction des petits satellites à forme de cube. Donc, on voit comment ça commence vraiment à créer, grâce aussi à ce qu'il fait l'UNOSA et ONFAM, une dynamique où les communautés se rendent compte qu'il y a beaucoup qui passe en termes d'empowerment des femmes par cette participation à l'espace. Parce que l'espace a une double magie. D'un côté, c'est effectivement l'inspiration. Ça nous élève. Vous savez que le mot « désir » vient de « desidera est », être loin des étoiles. Donc, on a tous une tension vers les étoiles. On cherche tout à les rejoindre, peut-être. Et c'est une tension formidable d'émotion. Donc, il faut pouvoir désirer. Et dans les pays en voie de développement, c'est surtout désirer qui peut faire une différence. Et après, la partie, effectivement, technologique, pouvoir s'approprier et voir sur les terrains tout ce qu'on peut faire grâce à l'espace, qui aujourd'hui, c'est quand même une infrastructure qui accompagne tous les objectifs du développement durable.
Vous avez justement évoqué ces pays en développement, cette notion de désir. Ça peut quand même sembler un peu abstrait ou à une portée très lointaine de s'impliquer dans les technologies et l'espace, alors que peut-être on cherche tout simplement à avoir de l'eau, de savoir comment on va affronter le temps qui change, la prochaine récolte.
C'est vrai, ça commence par des sujets qui sont liés quand même au quotidien. Donc l'importance, effectivement, d'avoir des objectifs durables et une qualité de vie qui monte. C'est clair que c'est un mouvement qui après amène surtout les filles à avoir moins peur de certains sujets qui sont encore considérés très masculins et surtout où les stéréotypes des familles, les attentes des familles sont encore très très fortes. On voit par exemple une étude de l'OCDE qui démontre qu'à parité des compétences dans tous les pays du monde, l'attente des familles à avoir une carrière STEM, c'est vers les garçons et très peu vers les filles. Donc il y a aussi un changement qui se met en marche, les moments où on touche par main, ça reste pas théorique, mais c'est des choses concrètes qui amènent un changement et qui amènent donc à ce sens de pouvoir changer les choses. Ça devient petit à petit aussi un élément d'exemple à suivre. Et c'est très important, l'exemple à suivre. Plus on aura et plus il y aura un effet cascade vers ce type de compétences et de métiers.
Autre aspect de cette réunion, comment est-ce que les différentes technologies liées au secteur de l'espace peuvent contribuer aux objectifs de développement durable, au-delà du seul objectif du genre? Est-ce que vous avez des exemples concrets?
L'infrastructure spatiale, donc les satellites, sont une infrastructure qui soutient de manière transversale les 17 objectifs de développement durable. Ça peut être par la télécommunication qui aide avec la télémédecine, c'est avec la météo, c'est dans l'éducation, tele-education aussi, c'est un élément très important. Pour tous les objectifs aujourd'hui de développement durable, il y a un tableau qui est disponible sur le site de la contribution de l'espace par objectif, à démontrer qu'effectivement c'est un outil qui concerne tout le monde. Et en fait, c'est ça sur lequel insiste beaucoup aussi la directrice de l'UNOSA, c'est qu'on a aujourd'hui, disons, l'économie et la croissance amenée par l'espace est de l'ordre désormais de presque 400 milliards. On a plus que 60 pays qui ont leur propre satellite, qui opèrent leur propre satellite, qui est en croissance exponentielle. Mais ça reste quand même l'espace. On a 70 nations qui ont une agence spatiale. L'Australie vient d'avoir son agence spatiale. Tous les continents sont impliqués, mais l'espace reste pas un club de riches. L'espace est un espace public, donc tout cet effort-là doit être un effort qui doit être décliné de comment, de les contributions qu'on arrive à avoir pour les gens sur notre planète, pour notre planète et pour ce qui est le futur de l'humanité.
Comment est-ce que vous êtes arrivée à devenir cette femme des sciences aujourd'hui à l'ESA?
Alors, d'abord, je dois dire que quand j'étais une adolescente, très, très, tourmentée. Donc, l'essence de la vie et des questions très philosophiques. Et j'aurais considéré de faire des sujets plus liés au sujet de l'humanisme. Mais j'avais peur que ça m'aurait fait refermer sur moi. Et j'avais besoin d'une dimension apaisante. Donc à l'époque, j'ai voulu faire ce que je pensais être la chose la plus difficile, parce que ça m'aurait amené dans un espace loin, moi, dehors moi. Je dois dire que c'était la plus grande expérience de ma vie, faire de la physique, et je tiens à dire pourquoi. C'est parce que c'est un sujet qui nous oblige à sortir de notre expérience. Je vous donne un exemple. Il y a une substance qui est l'hélium superfluide, qui au-dessus d'une certaine température, il perd la troisième dimension, il devient bidimensionnel. C'est magique, mais c'est vrai. Le temps, on sait que le temps peut sentir la force de gravité ou le temps peut s'éloigner en fonction de la vitesse. Donc le temps qui sent la gravité comme une pierre, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut abandonner tout ce qu'on sait de notre monde newtonien où la pomme nous tombe sous la tête. Et ça a un sens de liberté, on se sent libre dans un univers silencieux, infini, indifférent, mais c'est un sens de pouvoir et les pouvoirs de cogito ergo sum, d'être ici et comprendre. Et Ça m'a transformée et je suis convaincue, ça c'est mon expérience de la physique, mais aujourd'hui avec la biologie, les neurosciences, ça doit être les mêmes types d'émotions. La science nous transforme. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Ce n'est pas la peur des mathématiques. Je raconte toujours un épisode que j'aime beaucoup parce qu'on voit que les filles, en fait, n'ont peur de rien quand elles sont petites. Elles commencent petit à petit à avoir... Il y a une anxiété vers les matières scientifiques et la mathématique qui monte. Et alors, il y a un scientifique, Brian Greene, qui raconte, pour montrer ses différences d'attitude, qu'un jour, il va à une école primaire et demande à tout le monde de faire un dessin. Alors, il y a une fille qui commence à dessiner et lui, il lui demande « What are you drawing ? » « Qu'est-ce que tu dessines ?»« I'm drawing the face of God. » »« Je dessine la face de Dieu. » Mais « No one knows the face of God. »« In a minute, they will. » Non, ils vont les connaître bientôt. C'est cette envie d'oser. Et n'aie pas peur d'être jugé parce qu'on a osé. Et aussi, l'effet de... Si vous voyez, les dernières études de PISA démontrent qu'il y a parité des compétences. En mathématiques, la fille dit « je ne suis pas bonne », et le garçon dit « je suis la meilleure ». Donc, il faut faire ressortir cet attachement aux règles aussi, parfois, que les filles ont. Aujourd'hui, on sait que sous des positions importantes de leadership, c'est l'autre question de la présence des femmes, les femmes postulent s'ils sont 100% des compétences, les hommes postulent s'ils pensent avoir 60% des compétences. Donc cet attachement aux règles, il faut aussi un peu peut-être se libérer, prendre les risques et vivre l'émotion des sciences.
Est-ce que vous avez eu des femmes qui vous ont inspiré le long de votre parcours?
Alors, d'abord, je dois dire ma mère. Ma mère a une... Donc, on parle quand même d'une femme qui est née début des années 30 et qui était orpheline et avait des diplômes en chimie et en biologie. C'était hyper compliqué pour elle d'arriver à faire ça. Et ce qui m'a transmis, c'est cet énorme plaisir de la logique, donc de la mathématique comme un monde juste. Et c'est un monde juste, ce n'est pas des opinions, ce n'est pas quelqu'un qui triche, ce n'est pas subjectif et surtout, il y a des règles qui ne permettent pas à quelqu'un d'avoir
des court-circuités.
C'est ça la mathématique, c'est un monde de justice. Et donc, moi, j'ai toujours aimé la mathématique, ma fille aussi, elle va probablement continuer à étudier la mathématique. Donc, c'est sûrement ma mère et après, ma belle-mère aussi, avec le même parcours. Et voilà, et une fois que j'ai étudié de la physique, j'ai rencontré des grands personnages, mais je dois dire qu'il faut faire attention avec le role model, il ne faut pas que pour les filles soient perçues comme des exceptions, il faut qu'on puisse connecter. Par exemple, je suis une grande fan de Claudia Nieré, qui est une collègue, une copine, parce que c'est une femme formidable, remarquable, un astronaute avec aussi ses expériences politiques. Mais il y a cette capacité de connecter qui réduit les distances et rend les role models quelque chose qui peut être accessible et sur lequel connecter. Donc, c'est très important que les role models soient déclinés d'une manière inclusive.
Est-ce que vous sentez que votre parcours a été marqué par le fait que vous êtes femme?
Alors, je pense que ce n'est pas simple d'être une femme. D'abord, pour des attitudes que nous avons nous-mêmes. Comme je disais avant, parfois de ne pas oser d'intervenir, c'est cet élément de nous contre nous, être parfois notre pire ennemi. Et c'est aussi, comme je disais avant, respect des règles. Après, dans un monde qui reste quand même très masculin, il y a des stéréotypes. Je pense de ne pas avoir vécu directement sur moi cette difficulté, à part l'effet effectivement de devoir me développer d'une manière plus forte pour avoir le courage de m'affirmer. Mais je pense que c'est un monde qui peut être difficile pour les femmes.
Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez dire aux filles et aux femmes qui pourraient s'intéresser justement au domaine de l'espace et des sciences, des STEM?
Oui, je veux dire que le monde des STEM, ce n'est pas le monde d'une page blanche avec une équation différentielle à résoudre. Il faut peut-être passer un peu par là, mais c'est un monde de découverte, c'est un monde d'aventure, c'est un monde de contribution aux grands défis de la société qu'on a en face de nous, que ce soit les changements climatiques, que ce soit les énergies, que ce soit la famine. Et surtout, c'est un monde de super-pouvoirs. Donc, préparez-vous à participer à ce monde. Tirez, hurlez, faites sortir la partie qui est dans chacun de nous d'explorer, d'avoir envie de participer à des choses merveilleuses. Et serez-vous qui construirez les prochains villages sur la Lune.
Et c'est avec Kelsey Liavardo Scarpetta que se referme cette édition d'Escale, l'espace pour les femmes, assurer la participation des femmes dans la construction de l'avenir. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.